Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bruno, bonjour.
Bonjour.
Bruno, tu es au sein des rencontres de l'écologie et donc tu es visiteur aussi, mais également tu es fait partie d'un stand qui propose divers aspects de graines et autres. Alors il y a aussi une annonce que tu es venu faire à ce sujet pour une bourse de graines.
Oui, je fais le 9 février, dimanche 9 février de 14 à 17 heures. Il y a une bourse de graines organisée à Miscon, à côté de Luc-en-Diois. C'est la troisième année que cette bourse de graines a lieu. Et c'est un moment d'échange, donc échange de graines évidemment, mais d'astuces et d'idées. On est dans un monde où on essaye de se réapproprier certaines choses. Et entre autres, il y a des programmes d'autonomie alimentaire dans les régions. Et je pense que l'autonomie alimentaire commence par l'autonomie des graines.
Pour vous, c'est en quelque sorte aussi un moyen de préserver cette nature ?
Ben, ce qu'il y a, c'est que ça existe toujours. Il y a toujours des grandes industries semencières.
Ça, d'accord, mais il y a ce combat que vous persistez.
Qui viennent mettre des brevets sur le vivant. Là, l'avantage des bourses de graines, c'est que ça permet de maintenir une grande biodiversité. Parce que comme ça s'adresse surtout à des particuliers, il n'y a pas de contraintes professionnelles et de comptes à rendre, etc. On peut faire ce que l'on veut. Et la biodiversité, elle sera sauvée par des citoyens qui voudront pratiquer eux-mêmes leurs graines et leur culture de subsistance.
Voilà, donc vous avez ce cadre aussi que ce que vous proposez ne puisse pas être une exploitation économique.
Non, c'est le. Il faut. La nature est très généreuse. Elle produit beaucoup, et entre autres, elle produit beaucoup de graines. C'est à nous aussi d'être à la hauteur de la nature et d'être aussi généreuse qu'elle. Donc il y a vraiment une question hors commerce, juste d'échange pour, comme je disais, préserver la biodiversité et développer des espèces adaptées à nos régions pour faire face aussi à ce qui peut arriver, aux modifications qui peuvent arriver. Mais si on prend en main les graines, c'est nous qui pourrons adapter nos cultures, adapter les variétés à ce qui va arriver.
Voilà, donc c'est une bourse de graines. Par échange, il y a aussi des propositions d'astuces ou des idées qui seront traitées. Donc il y a aussi des petites conférences autour de ce marché.
Alors, il n'y a pas de conférence parce que le marché, la bourse est très courte, c'est juste 3 heures. Les gens, ils sont là, ils viennent un petit peu durant les 3 heures, ils ne viennent pas pendant 3 heures. Et pour avoir essayé de faire des projections en même temps, ce n'est pas forcément le lieu adapté. Les astuces, les échanges d'idées, ça se font d'une façon informelle, en discussion entre les personnes.
Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces propositions de graines ? Est-ce qu'on peut déterminer le nombre d'espèces qui sont accessibles ?
Ben là, donc tout va dépendre de ce que les gens vont apporter. Je peux déjà parler de ce que moi, de mon petit côté, je vais apporter. Donc, beaucoup de graines potagères, mais aussi des fleurs, des plantes aromatiques et médicinales, des engrais verts, tout ce qu'il faut pour rendre son jardin attractif et généreux.
Et donc, ça sera de 14 à 17 heures. Pour tout participant ou personne désireuse de se rendre, il y a un numéro de téléphone.
Le numéro de téléphone, c'est 07 49 63 71 43.
Il y a une invitation avec arrivée avec des récoltes.
les récoltes ont déjà été faites. Donc c'est pour ça que dans la bourse de graines, évidemment, c'est ouvert à tout le monde, même ceux qui n'ont pas prévu le coup. Ils peuvent venir sans rien et repartir avec des graines. Bah, ce qui serait sympathique, c'est que l'année prochaine, ils viennent avec des graines là. Mais c'est parce qu'ils auront pu prévoir le coup maintenant qu'ils sont informés.
Toi-même, Bruno, cette activité maraîchère n'est pas le point central de tes activités ?
Non, non, c'est pas du tout central, mais en même temps, ça fait partie d'un cycle. Si tu veux, moi, j'ai une activité professionnelle de paysan, mais c'est surtout un mode de vie qui s'adapte à la nature. Ça veut dire que, par exemple, au printemps, je vais m'occuper des semis et de l'installation du potager. En été, je vais m'occuper des récoltes de plantes médicinales, qui est aussi une de mes activités. Et à l'automne, ça va être la récolte des graines, la récolte, le tri, pour pouvoir participer à cette bourse de graines.
Merci Bruno.
De rien.
Bonne fin de journée.
Au revoir.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Autour de cette table, dans le cadre des rencontres de l'écologie, avec ce titre « Coopérer pour un territoire vivant », j'ai Clémence Marie. Bonjour.
Bonjour.
Il y aura aussi Jérémy Bertrand.
Bonjour.
Et Johannes, donc, qui va nous rejoindre d'ici peu. Chacun vient d'un secteur plus ou moins éloigné les uns des autres, mais... Vous allez nous expliquer un peu aussi ce désir de ce regroupement de vos savoirs et de vos connaissances dans la matière des graines, hein, des semences. Alors Clémence, Marie, déjà vous êtes au niveau de glandage, hein, sur le Haut-Diwa. Quelle est votre activité principale ?
Alors, je suis en cours d'installation sur un projet de production de semences paysannes. Essentiellement potagère dans un premier temps, et en essayant de mobiliser les professionnels producteurs maraîchers sur la question, en essayant de travailler avec eux, pour eux essentiellement.
Et donc il y a aussi Jérémy. Bertrand, vous êtes plutôt à la frontière entre les Hautes-Alpes et les Alpes...
Les Alpes d'Haute-Provence.
Ouais. Haute-Provence, aux environs de Gap, hein, on dira. Et vous-même, quelle exploitation avez-vous ?
Je n'ai pas d'exploitation. Je fais de la production déjà vivrière, déjà pour moi, les gens autour de moi, et avec une grosse affinité pour la semence depuis un moment, où j'ai cofondé un collectif local dans le 05 pour autoproduire entre jardiniers amateurs de la semence paysanne. Et puis progressivement, avec la rencontre de la maison de semences paysannes du 05 et d'autres collectifs à l'échelle nationale, voilà, j'ai un peu approfondi la question. Et là, j'ai rejoint aussi, saisi l'opportunité là, de ces rencontres à Die pour... parler d'une approche aussi qu'on porte à l'échelle nationale sur ce qu'on appelle les populations évolutives, qui propose d'aller un peu plus loin que l'approche des variétés populations classiques.
Je me tourne vers Lily aussi. Vous êtes plutôt au pays des Hautes-Alpes. Et pareil, hein, vous êtes ici avec ces semences.
Sur la dynamique des Hautes-Alpes et la vocation qu'a la maison de semences paysannes, c'est à réunir des acteurs qui s'intéressent à un commun nourricier où il y a des enjeux agronomiques sur les méthodes de sélection paysanne à partir non seulement de semences population et au champ et fait par les paysans et paysannes. Voilà, il y a aussi un enjeu agronomique où on essaye de réunir et les professionnels et les non-professionnels, des personnes qui sont curieuses et qui ont envie de monter en compétences. Et c'est... Voilà. Et aussi au niveau de l'enjeu politique, la maison de semences paysanne fait aussi partie du coup d'un réseau de maisons de semences éparses en France qui se réunit sous le réseau de semences paysannes RSP, qui lui-même est associé à d'autres encore qui sont à l'européenne, puisque est en train de aussi émerger Let's Liberate Diversity sur comment coordonner les semences en fonction des territoires, des législations qui sont autour, et toujours pour un nourricier commun.
Donc vous, Johannes, vous venez, Gellerman, vous venez de la Drôme des Collines plutôt.
Drôme des Collines, c'est le nord de la Drôme.
Et votre activité principalement autour de ces semences, quelle est-elle ?
Moi je suis jardinier et le principal de mon travail c'est de laisser monter les légumes en fleurs et ensuite ils produisent leurs graines et je récolte ces graines et je les transforme en semences.
Alors tous autour de cette table exposez vos semences, il y a des tables avec des étagères, des présentoirs, des documents aussi, des flyers. Et il semble que vous avez le désir aussi de vous regrouper, de vous associer entre tous ces territoires. Pour vous, quel est ce motif principal ?
Alors, de mon point de vue, c'est quelque chose qui est inhérent à la semence, et je veux dire à ce petit monde de semences, des gens qui tiennent à cœur le travail avec la semence et la divulgation de savoir-faire autour de cela. Et c'est toujours, ça passe toujours par la coopération, par faire ensemble. C'est pas une chose qu'on fait toute seule dans son coin. Et nous, on est là un peu autour, dans ce territoire, le Diwa, et autour. Et on a saisi cette occasion-là, ici, pour un peu resserrer les liens, connaître les uns les autres, identifier des visions communes et développer peut-être une vision commune dans l'avenir. Et ce qu'on ressort, c'est qu'on a tous envie d'identifier le besoin dans ce territoire élargi des professionnels et des particuliers au niveau de leurs besoins de semences pour se nourrir, pour produire l'alimentation.
Identifier aussi ce besoin de proximité. Et donc du coup, en tant que aussi semencier et producteur à vocation professionnelle, l'idée aussi c'est d'être en rapprochement direct et en contact direct avec les producteurs maraîchers, entre autres, mais voilà, pas que céréaliers et autres, ça c'est encore autre chose, mais du coup d'être aussi inscrit au niveau local. Donc on a chacun aussi notre rayonnement et notre façon de travailler, que ce soit dans les collines, dans les Hautes-Alpes, dans le Diwa, mais du coup, comme tu disais, Johannes, ensuite on se met aussi en réseau et en coopération sur des territoires voisins au bénéfice aussi d'une production d'une production paysanne sur nos petites je me suis un peu perdue, mais sur au niveau local comme au niveau départemental, régional. Donc l'idée aussi c'est d'être au plus proche aussi de ces différents acteurs du secteur de l'alimentation, quoi.
Et puis chaque territoire a peut-être des plantes plus amènes que d'autres, donc c'est aussi cette possibilité et cette nécessité de réseau, hein, donc.
Ouais, complètement, ça c'est aussi un travail que complètement présent de la semence, de l'adapter à des contraintes de terroir, à des contraintes climatiques. Et on a de cesse de l'entendre dire là au sein de ces rencontres qui sont de plus en plus présentes, qui se font de plus en plus ressentir. Comment nous, qui sommes au départ du tout le processus aussi, si nous on produit en tout cas de la graine, on se doit d'avoir aussi cette réflexion-là. Et comment on s'organise, et c'est ce qu'on essaie de faire là, de lancer.
À cette image du 9 février, il y aura une bourse de graines à Miscon, l'après-midi, donc de 14 à 17 heures. On peut-être, on notera vos présences également.
Oui, oui. complètement. Ce qui est intéressant, et certainement tu as dû en parler avec Bruno, c'est aussi ça la richesse qu'on peut trouver dans la semence paysanne, c'est la diversité. Et du coup, c'est une richesse aussi d'avoir dans un collectif une diversité aussi de points de vue, de façon culturelle, de positionnement. Et lui, je trouve que ce qui est chouette, c'est qu'il amène aussi ce côté échange, troc, et qui est aussi un bon prétexte pour parler de tout ça, se rencontrer. Et donc voilà, nous, oui, on y sera. Ouais.
Alors, il y a cet aspect aussi de ces semences et de leur exploitation, ou du moins de leur utilisation. Vous avez cette contrainte de ne pas pouvoir exploiter économiquement ces semences, parce que certaines plantes ne sont pas officiellement reconnues. Et ça, il y a aussi ce problème. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en est de ce patrimoine, de ces semences qui sont mises à l'écart de ces circuits de distribution ou des réseaux commerciaux.
Ouais. Et là, je ne sais pas si je serais la plus calée pour l'expliquer clairement là-dessus, mais ouais, je peux donner mon sentiment. Alors, je crois que c'est en train d'évoluer. Il y a quand même beaucoup de structures, beaucoup de gens qui se mobilisent depuis de nombreuses années sur la thématique. Donc, il y a de l'évolution aussi là-dessus, au niveau législatif. C'est assez en mouvement, c'est peut-être plus long et plus lent que ce qu'il faudrait vraiment par rapport si on le confronte à la réalité du terrain. On a quand même la possibilité de plus en plus de commercialiser, de ramener aussi sur ce plan-là de la semence paysanne. Je sais pas si ouais, Younes, tu veux peut-être.
Donc une chose qui me vient par rapport à ça, c'est que on entend souvent qu'on parle avec des anciens que ah oui, là j'ai encore cette variété là et le monsieur qui me l'a passé, elle a dit garde-la bien, on la trouve plus dans le commerce. Et comme ça, il existe encore de nombreuses variétés mais de moins en moins par-ci par-là dans des petits potagers de quelqu'un qui va peut-être aussi un jour arrêter. Mais ce qu'on peut retenir de ces histoires, c'est que des variétés, ils risquent de tomber aux oubliettes à partir du moment où ils ne sont plus disponibles dans le commerce. Donc c'est d'un côté, nous avons tous une fibre pour animer toute la population à faire ses propres graines et de rendre le commerce quelque part un peu dispensable. Mais on voit comme la société fonctionne aujourd'hui, dès qu'on ne peut plus faire une marchandise quelque part, que c'est là aussi, c'est mort subite. Et du coup, la meilleure chose aujourd'hui dans ce système capitaliste comme il est, à garder vivantes des variétés, c'est de pouvoir les vendre, avoir le droit. Et là, il y a toute la lutte qu'on mène auprès des législateurs, c'est-à-dire Union européenne, avec toute la société civile mobilisée, de garder le droit de commercialiser ces semences-là qui ne correspondent pas aujourd'hui à des normes imposées par l'industrie. Et ensuite, si pour des variétés qui sont exclues, mais ils peuvent subsister parce que des gens, des associations les trouvent, les maintiennent dans des espèces de conservatoires. Où finalement on peut peut-être un jour revenir et les réinvoquer. C'est des nombreuses personnes ont fait. Aujourd'hui, on trouve de nouveau des variétés aussi à la vente qui ont été oubliées ou perdues pendant un certain moment. Il y a aussi maintenant des entités territoriales qui s'intéressent de nouveau. Il y a des financements pour ça. Donc, il y a un exemple, c'est le projet Archipel qui était mené les dernières 3 ans par le lycée horticole à Romans-sur-Isère, Terre d'Horizon, qu'ils ont fait avec d'autres partenaires. Un recensement des anciennes variétés dans toute la zone, la Drôme, mais aussi Ardèche, Isère. Et là, on a retrouvé dans les potagers des gens, dans les pépinières, mais aussi dans les banques génétiques de l'INRA et du CERBEA, des variétés qui sont originaires de la Drôme ou limitrophes. Et on essaie aujourd'hui à les tester de nouveau et à les remettre aussi au goût et à reproposer aux maraîchers.
On peut peut-être rappeler aussi ces organismes sur lesquels vous vous référez ou qui vous défendent.
Alors, en premier lieu, peut-être le réseau Semences Paysannes qui fait pas mal de travail de veille au niveau réglementaire, qui produit aussi des contenus justement pour y voir clair aussi sur l'évolution des réglementations, qui a aussi dans ses missions une mise en réseau des acteurs des semences paysannes en France. Donc ça permet, c'est aussi comme ça qu'on est aussi grâce au réseau Semences Paysannes autour de la table aujourd'hui, par ricochet. Les maisons de semences paysannes implantées au cœur des territoires pour les territoires ou les départements qui ont la chance aujourd'hui d'avoir ce type de... Voilà, elles ont souvent un statut associatif, hein, donc elles ne sont pas présentes dans tous les départements. Et j'en oublie certainement, en tout cas c'est les deux principaux qui me viennent à l'esprit. Ça c'est les organismes structurés. Après il existe aussi plein de collectifs plus ou moins formalisés. Moi, je peux parler aussi c'est un peu ma petite casquette aujourd'hui sur ce qu'on porte au niveau national avec un collectif pour l'instant informel qui émane du réseau Semences Paysannes sur questionner l'approche dite fixiste des variétés, c'est-à-dire qu'une variété devrait être nommée sur base de critères de distinction, de stabilité et d'homogénéité. C'est comme ça que les variétés qu'on connaît tous sont inscrites au catalogue et c'est ce qui fait qu'elles sont monétisables dans le cadre d'une activité marchande. L'approche du collectif, qui s'appelle le collectif PEPS pour population évolutive présélectionnée, il s'agit de pouvoir réinjecter la diversité génétique au maximum au sein d'une espèce donnée pour favoriser l'adaptation au changement climatique, une meilleure résilience par rapport à tous les aléas qui nous attendent. Mécaniquement, ça empêche aussi une réappropriation et une brevetabilité du vivant puisqu'on ne peut plus définir précisément. Les espèces qu'on va reproduire et donc on ne pourra pas les modéliser. Et ça permet aussi et surtout de remettre dans les mains des maraîchers et des producteurs de légumes, quand on parle des légumes, mais on peut généraliser à l'ensemble des espèces cultivées, la biodiversité cultivée aujourd'hui, remettre dans les mains justement de ceux qui cultivent ces légumes, la capacité de les sélectionner et d'orienter les sélections vers des usages et non ce que la commercialisation, la version marchande pourrait exiger de reproductivité, de normes, etc. Et où ce serait l'usage d'une variété qui primerait devant le fait qu'elle soit de telle couleur, de tel calibre, de telle conservation, etc. Et donc c'est quelque chose aussi d'assez joyeux puisque ça permet aussi de rendre hommage à la diversité du vivant et à sa capacité à s'hybrider dans tous les sens, là où on hérite de plusieurs décennies maintenant, depuis finalement la révolution industrielle et la spécialisation du métier de semencier, grainetier, etc., l'entonnoir et l'impasse aujourd'hui d'une certaine pauvreté dans l'offre aujourd'hui et une faible résilience par rapport aux enjeux à venir.
Alors, j'avais procédé à un interview concernant l'inventaire des variétés locales sur le Vercors et aussi sur le Diois. Je crois que ça dépasse le millier d'espèces. Hein. Est-ce que, à cette image d'intérêt des collectivités même sur ces plantes, est-ce qu'il y a un écho aussi dans les Hautes-Alpes ou dans les secteurs que vous occupez également ?
Je ne suis pas très en lien avec ce projet en particulier, mais avec le projet partenaire ou qui touche la même thématique. C'était justement le projet Archipel. Donc c'est à peu près la même démarche de retrouver des variétés fruitiers, oléagineux, protagineux, potagères, et voir ce qui était jadis la richesse du territoire. Et comprendre pourquoi c'était tombé des souhaits, pourquoi on les utilise plus, pour quelles raisons. Donc c'est la question que les ethnobotanistes se posent là-dedans. Et après, avoir, est-ce qu'on ne pourrait pas réinvoquer certaines de ces variétés et tester s'ils sont toujours, s'il y a un intérêt à trouver aujourd'hui. Et là, pour le projet là en particulier, je viens voir qu'il y a Grégory, qui pourrait en reprendre peut-être davantage.
Oui, je peux peut-être compléter aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les populations évolutives. Pour créer des populations évolutives et donc au sein d'une espèce donnée, prenons l'exemple de n'importe quoi, de l'aubergine, on a besoin d'avoir accès à un maximum de diversité et de ressources génétiques. Donc ça, elles sont fournies à la fois par les catalogues actuels, qui sont relativement, encore une fois, assez pauvres, par tout ce qu'on peut trouver chez les jardiniers amateurs, tout ce qui est qui passe sous les radars. Et puis aussi et surtout la partie, on va dire, immergée de l'iceberg qui se trouve dans les centres de ressources biologiques dont Johannes a un petit peu parlé tout à l'heure, qu'on trouve à l'échelle française dans les CRB, hein, dans différentes parties de France. Ils se sont répartis de boulot sur la conservation des différentes espèces potagères. Et aussi à l'échelle européenne, voire internationale. Et donc, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers d'accessions, ce qu'on appelle des accessions, donc des lots de semences et de variétés qui dorment, clairement, en attendant d'être, pour certaines, d'être réveillées et de participer à cette réinjection de diversité par rapport aux enjeux à venir.
Nous approchons du printemps, ça va être la période des semences. Il y a des rendez-vous qui vont bientôt se faire au travers de tous ces pays que vous occupez, et chez nous également. Est-ce que vous avez des dates ou alors un moyen de se référer sur les prochains rendez-vous via réseau internet par exemple, ou comment s'informer pour connaître un peu vos bourses de graines?
Oui, déjà, en commençant par Miscon, mais déjà Bruno s'est quand même pas mal exprimé là-dessus, puisque c'est lui qui est aussi moteur de ça. Nous, on est aussi justement dans cette réflexion, il y a différents axes, en fait. Il y a un travail qui a été bien amorcé là, ce week-end en interne, c'est pour ça que tu nous as vu sortir, nous extraire et essayer de définir un peu notre stratégie, pardon. Donc après, oui, la saison va démarrer. Donc il y a ce travail en interne qu'on va faire, nous, de recherche et de mise en lien avec des professionnels maraîchers. De là, après, à créer des événements, on va...
Quand je parle d'événements, c'est juste un marché ou un moment d'échange.
Ouais. En fait, on cherche, oui, petit à petit, sauf qu'après, le moment de la graine, si tu veux, c'est très localisé, c'est très ciblé à une certaine période. Voilà, c'est maintenant. Donc, y a cette proposition qui se fait à Miscon. On ne va pas, en tout cas sur le territoire du Diwa, la multiplier, parce que même si on est très nombreux et que le relief est assez, assez présent... On trouvait pas ça très cohérent non plus de faire de la surproposition. Par contre, on peut aussi on a réfléchi aussi à se répartir un peu sur la vallée de Quin, sur le Haut Diwa, à différents espaces, des moments forts où peut-être que la bourse de graines, ça peut se passer à Miscon, qu'au printemps, on peut envisager dans la vallée de Quin une foire aux plants, un événement autour du piment, parce qu'on s'est dit que ça plaisait quand même pas mal. Et puis, à cette occasion-là, on pouvait aller prochainement proposer des semences de piment, des plants, de la bonne nourriture et puis un moment festif aussi qui nous rassemble. Mais ça, c'est encore dans la vision, et on va peut-être inscrire ça dans la matière, mais on n'hésitera pas à te le faire passer, l'info.
Si vous voulez, il y a donc côté nord de la Drôme et de l'autre côté du Vercors, dans le Trièves, avec Émilie qui est aussi présent ici aujourd'hui, on fait partie aussi d'un groupe qui s'appelle Semences 38, donc qui est porté par l'ADR de l'Isère administrativement, mais qui fédère des maraîchers, jardiniers, des particuliers professionnels qui touchent à la semence, au-delà de aussi tout découpage administratif. Et là, on a juste jeudi passé eu une autre réunion qui donnait lieu à un troc de semences et qui a aussi servi comme support pour discuter le resserrage de notre réseau tout autour du Vercors. Et par la suite, ce qui concerne la Drôme des collines, on va certainement organiser un troc de semences avec des jardiniers et des maraîchers et maraîchères fin février, début mars. La date est encore à trouver, qui va donner aussi l'occasion à des pourparleurs pour faire savoir un peu la démarche qu'on vient de concoter un peu ici avec des partenaires ici aujourd'hui présents. Afin de sonder les besoins, recenser les besoins des gens dans nos territoires respectifs, donc dans la Drôme de Collines à l'occasion. Et par la suite, il y aura en avril un marché au plan organisé par le comité des fêtes de Châtillon-Saint-Jean, c'est la commune où j'habite. qui rassemble donc plusieurs producteurs de plants. Et moi, j'y serai présent avec un stand de semences. Et ça, de nouveau, c'est chaque fois aussi des prétextes pour ouvrir le dialogue avec la population quant aux enjeux de la semence, qui est un, comment dire, qui est quelque part fondamental parmi tous ces enjeux de la société aujourd'hui, de façon planétaire, donc du local au global.
Vous avez noté donc un net intérêt aussi des jardiniers amateurs, on peut en trouver énormément dans le Diois, et qui se rendent justement sur ces trocs de graines. Je reviens un peu sur cet aspect du jardinage. Est-ce que vous êtes sublimé parce que vous produisez ou ce que la terre vous produit ?
Oui, par rapport à ce que vous venez de dire, il faut souligner l'importance des jardiniers et jardinières amateurs, puisque c'est eux qui sont moins soumis à une contrainte économique et qui ont donc plus de, comment dire, de marge de manœuvre dans leur choix. Et qui se sont souvent eux aussi qui se mobilisent dans les associations à but non lucratif pour sauver quelque part un patrimoine végétal et qui finalement aident à maintenir donc une base sur laquelle après on peut rebâtir et recréer aussi quelque chose d'intéressant pour les professionnels. Parmi les professionnels, on trouve très souvent des personnes qui ont un cœur pour la chose, mais qui se trouvent ligotées, donc qui n'arrivent pas à intégrer, ou seulement avec beaucoup de difficultés, intégrer dans leur vie professionnelle l'utilisation à 100% de la semence paysanne et traditionnelle, puisqu'il y a le paradigme de la productivité de partout, et c'est pas négligeable. Et donc ce travail de sensibilisation auprès des professionnels, c'est hyper important. Et sans les jardiniers amateurs, on aurait, je crois, déjà perdu encore 80% de ce qui nous reste au niveau diversité, agrobiodiversité cultivée.
Juste une petite parenthèse pour reposer la question, c'est celle, qu'est-ce que vous conseilleriez justement à ces jardiniers amateurs pour mieux se documenter ou se fournir en connaissances pour les semences ?
De venir nous voir à nos stands.
Entre autres, oui. Mais vos stands ne sont pas forcément présents en permanence.
J'ai envie de dire de rejoindre des collectifs ou des associations existantes, puisque c'est via le collectif qu'on peut avancer, comme le disait Yoannette tout à l'heure, sur ces questions-là. On ne peut pas, en tant que jardinier, et encore moins en tant que maraîcher, prétendre à autoproduire soi-même toutes ces semences et pour satisfaire tous nos besoins. Encore une fois, si on va au-delà même de l'enjeu nourricier, la plupart des choses dont on a besoin aujourd'hui, que ce soit le textile, que ce soit les matériaux, une bonne partie est issue de la photosynthèse et donc de la culture de plantes, donc de la biodiversité cultivée. Donc là, pour moi, ce serait la première chose de ne pas s'isoler, et également, puisqu'on est quand même des tanches en France pour s'organiser collectivement, de monter en compétence sur la manière de justement gérer un collectif et d'avancer dans une direction commune. Donc c'est de plus en plus facile aujourd'hui de trouver de la ressource pour le faire. Mais il y aura toujours le PFH, comme disait Albert Jacquard, le putain facteur humain qui fait que ça frictionne dans tous les sens, n'empêche qu'on avance quand même dans la bonne direction. Et voilà, ça s'improvise pas, ça fait partie d'une réappropriation de cette culture, du faire ensemble, de dépasser les enjeux individuels pour aller vers un enjeu commun. L'alimentation et la biodiversité cultivée, c'est un commun. La pérennité de nous en tant qu'espèce est conditionnée par le maintien de cette diversité-là. Donc faut pas le perdre de vue.
Je reviens sur cette question de est-ce que vous êtes sublimé par ce que vous produit cette terre et vos graines ? Est-ce qu'il y a une passion ? Qu'est-ce qui vous anime ? Bon, il y a le jardinage, mais en résultat, vous obtenez quoi ?
Moi, je peux répondre en mon nom. Moi, personnellement, pour moi, c'est une démarche spirituelle de dépouillement aussi et de résonance avec le vivant, enfin ce qui se projette à l'extérieur d'un point de vue spirituel, c'est mon état intérieur. Donc ça m'apprend beaucoup sur là où j'en suis personnellement. Et puis c'est aussi tout simplement un besoin de déconnexion avec l'ensemble des stimulations auxquelles on est soumis aujourd'hui. Et donc ça fournit pour moi un cadre nécessaire qui est aussi rythmé par quelque chose de naturel, hein, les saisons, les exigences du cycle de reproduction de ces espèces annuelles pour la plupart. Et donc ça donne des échéances, ça donne un cadre, ça, voilà, ça me constitue et ça structure. Voilà. Je fais partie des personnes qui ont besoin de ce type de structure et moi ça me... Voilà, ça structure un quotidien, effectivement. Et ça donne beaucoup de sens aussi, hein, puisque voilà, ça fait partie des besoins fondamentaux. Et sur aussi cette approche de respect du vivant au sens large, puisque par les pratiques qui découlent de l'utilisation et le développement des semences paysannes, en termes d'impact, ça suppose un impact beaucoup plus réduit sur l'ensemble de nos écosystèmes.
Alors, il y a donc cette constance, hein, qui permet, avec les saisons, de pouvoir produire un peu ce cycle chaque année. On a eu quand même des conférences qui notaient cette fluctuation des climats. Est-ce que cela impacte aussi vos cultures, ces périodes de sécheresse, parfois même l'inverse, ou des gels tardifs? Est-ce que vous constatez aussi des difficultés augmentées?
Je peux faire une ébauche de réponse et vous compléterez, mais moi personnellement, oui, je le constate, puisque pour rejoindre ce que disait Olivier Amand hier, intervenant, qui parlait énormément de performance et de robustesse, et de voilà, ça, on quitte le monde de la moyenne pour le monde de l'écart type. Ça se vérifie. La plupart des gens qui travaillent avec du vivant le confirmeront. Et pour moi, ça me donne d'autant plus de légitimité et de nécessité à s'organiser en collectif, à faire de la redondance, à distribuer des tâches et à, voilà, pour être en capacité d'adapter et de pouvoir aussi faire émerger des réponses qui s'inscrivent aussi dans cette logique d'adaptabilité dans un monde de l'écart type. Donc moi, c'est aussi ma sensibilité par rapport à ce que j'écrivais sur les populations évolutives, qui pour moi répondent aussi à cet enjeu de pouvoir être un peu plus tout terrain que des variétés ultra performantes qui vont fonctionner dans des conditions de culture souvent délétères pour l'environnement, les sols, etc., et l'eau, qui sont certes très productives, mais qui, dès qu'un paramètre change, ne perdront tout leur intérêt.
C'est certes qu'aujourd'hui, on a des fois des événements climatiques qui sont très durs à encaisser, comme des grêles fortes, la sécheresse, après des grosses neiges, mais des fois même tout à la fois dans la même année. Mais même si un changement climatique existe, fait par l'humain, qui se fait sentir les dernières décennies, il ne faut pas oublier que jamais dans l'histoire de l'agriculture, une année a ressemblé à une autre. Et donc, la question, pour moi, ou une partie de la réponse, ça se loge ailleurs. Ce n'est pas que les conditions deviennent de plus en plus rudes que c'est le cœur du problème. Le cœur du problème, à mon avis, c'est que la façon de l'être humain de vivre... quelque part entouré de la nature, mais dans une volonté de s'extraire de la nature, a amené à de faire à peu près tout, et la production de l'alimentation y compris, d'une façon de plus en plus rigide. Donc avec des buts de productivité à tout prix, qui notamment à partir des années 50, après-guerre, ils ont déclenché la révolution verte, etc. Avec tous ces dérives autour, mais c'est surtout, c'est très rigide et c'est axé et mené sous paradigme de la maîtrise totale d'un environnement. Et ça, c'est illusoire.
Ça rejoint le hors-sol, en somme. Pardon ? Le hors-sol, par exemple, est un exemple.
C'est un exemple. Aujourd'hui, on entend beaucoup la promotion aussi des fermes dites verticales et qui sont faites en aquaponie, qui produisent la nourriture sur moins d'espace, dans des tambours avec la lumière artificielle, etc., comme une solution de l'industrie verte par rapport à tous ces problèmes. Cette poudre aux yeux, ça couvre complètement ces initiatives-là, mais ils poussent sur une idée qui est complètement déconnectée de notre terroir, de notre environnement, de la nature, et s'inscrit exactement dans la même démarche. On maîtrise tout, maintenant on maîtrise même la longueur de dents de la lumière qu'il faut donner à un certain moment afin que la plante pousse de façon optimale, que la nature a su se optimiser par rapport à des conditions environnementale changeante en permanence depuis des millions d'années, c'est complètement ignoré dans ce type de démarche. Et là, c'est intéressant de ce que nous, on essaye de faire ou essaye de garder dans la mémoire des gens avec la semence dite ancienne ou paysanne. C'est de la semence qui est accessible à tout le monde. Donc, toute personne qui était jadis responsable de sa subsistance peut le redevenir demain s'il faut, du jour au lendemain, avec ses semences. Ce qu'il va manquer, c'est le savoir-faire. Et donc le savoir-faire et la semence, ça se véhicule au même instant. Et ça, c'est, pour moi, c'est la seule chose qui peut pallier à ce type de problème-là. Voilà, si on a des effets climatiques forts, désastreux d'une année ou d'une autre, si l'humanité, dans sa globalité planétaire, dépend d'un seul système et d'un seul point de départ industrialisé, comment il faut faire des choses, et chaque graine sera soumise à ce conditionnement, ben, ça ne peut certainement pas être une réponse à ce type, à ce contexte climatique. Voilà, mais il faut de la semence qui est délocalisée, qui est maîtrisée par chaque être humain dans son coin, et la richesse, la diversité qui nous permette à rebondir quand on doit encaisser un coup.
Il y a cette production donc de produits frais. Vous les distribuez, vous les consommez, mais il y a parfois du stock encore. Est-ce que vous avez cette notion de la transformation de vos productions de manière à pouvoir maintenir un peu tout au long de l'année la consommation ?
Oui. Et on a essayé, ben, on est en train justement de se mettre aussi en lien avec, ceux qui sont aussi directement dans le... Voilà, dans le réseau cuisine, transformation sur le Diwa. On sait que aussi il y a quand même des groupes qui se mobilisent avec des institutions qui sont en train de vraiment mettre en place des choses concrètes dans cette voie-là. Nous, on est au niveau de la semence, forcément, quand on a égrené et on a extrait nos graines, on a cette réflexion-là aussi de dire comment on revalorise aussi cette chose-là. Et forcément, tout de suite, eh ben, on se tourne vers la cuisine, vers la transformation. Et il y a aussi déjà beaucoup de gens qui le pratiquent déjà et qui... Bah, c'est une bonne porte d'entrée aussi, c'est un bon prétexte pour aborder toutes ces thématiques-là, quoi. Donc ça aussi, je pense que c'est... en fait, moi, de ce que je vois, c'est que on a chacun nos spécialités. Mais en fait, tout est en lien, tout est en réseau, et on le voit dans le végétal, on le voit nous dans nos fonctionnements en tant qu'humains. Donc là, ce sur quoi ben, on essaie de plancher, et je pense qu'on est nombreux à être d'accord sur cette façon de fonctionner, c'est que ben, il est quand même temps que aussi on tisse des ponts entre nos différentes disciplines, et que voilà, on est tous un peu aussi dans le même bateau ben, vis-à-vis de ce besoin qui est commun, c'est aussi se nourrir, quoi.
Oui, je dirais simplement que l'autonomie n'est pas l'autarcie, c'est son contraire. C'est privilégier les liens entre personnes en reconnaissant chacun comme compétent là où il est. Et que, voilà, nous sommes tous interdépendants.
Je rappelle aux auditeurs cette bourse de graines qui va se tenir donc le 9 février à Miscon. Ça sera peut-être aussi l'occasion de vous rencontrer et d'établir un dialogue avec les visiteurs et les jardiniers amateurs. Eh bien, je vous remercie tous, Clémence Marie, Jérémy Bertrand, Johannes Gellermann, Émilie Astier, je ne sais pas si... elle était présente à ce stand aujourd'hui, mais n'a pas eu le temps de passer nous voir. Et Lily qui est intervenue en tout début d'émission. Et je vous souhaite une bonne soirée à vous tous.
Salut, merci.
Au revoir.
Salut. Au revoir.